Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Bertrand Perrier.
Elsa Boublil.
Débattre, c'est le contraire de se battre.
C'est sur ces paroles clairement et distinctement prononcées par Thomas Hampson et Angela Georgiou dans ce quatrième acte de Carmen de Bizet, si tu m'aimes, que nous vous accueillons Bertrand Perrier, avocat et professeur d'éloquence. Vous êtes l'un des héros du film à voix haute sur le concours Eloquentia, visant à élire le meilleur orateur du 9-3. Savoir se faire entendre et comprendre, trouver les mots justes, ceux qui claquent, attirent l'oreille et qui nous sortent de notre monde. L'art oratoire est une arme sur laquelle et avec laquelle vous travaillez depuis quelques années. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Alors vous avez publié en octobre dernier « La parole est un sport de combat » chez Jean-Claude Lattès et je crois qu'il est en passe d'être publié.
Oui absolument, il va ressortir.
Pourquoi ? C'est un livre qui a mis l'accent sur ce qu'on disait à l'instant, comment savoir parler ?
Il y a un alignement des planètes autour de l'art oratoire depuis quelques années ou quelques mois en tout cas, qui a commencé avec le film à voix haute, qui s'est poursuivi avec Le Brio, le film avec Daniel Auteuil, et qui s'est encore amplifié avec l'annonce par Jean-Michel Blanquer de la création d'un grand oral du bac. Donc ce livre s'inscrivait dans une prise de conscience de la nécessité de redorer le blason de la parole en public.
Alors là, voilà, avec Carmen, la parole en public, là je disais, on entend très bien les paroles extrêmement bien prononcé. On est aussi dans l'art oratoire quand on doit chanter avec la difficulté de la musique par-dessus.
Évidemment, et surtout de chanter en français qui est extrêmement compliqué. Autant l'italien est une langue naturellement chantante, autant la prosodie du français est quelque chose de très délicat qu'Angela Georgiou fait évidemment merveilleusement et Thomas Hampson aussi. Mais c'est vrai que le air grasseillet, tout ça est très compliqué et la prosodie de la langue française, les accents de la langue française sont particulièrement délicats.
On va le voir au cours de cette émission, vous n'êtes pas nécessairement, Bertrand Perrier, attiré par l'opéra. Le piano ça occupe une place incroyable, si ce n'est central.
Oui, vous allez avoir une émission de monomaniaque, mais néanmoins, non mais l'opéra, d'ailleurs, Frédéric Chopin, qui est mon compositeur de chevet, on en parlera peut-être tout à l'heure, n'a passé sa vie qu'à écouter de l'opéra et à essayer de reproduire dans cet instrument nécessairement imparfait qu'est le piano, la grandeur de la voix. Donc finalement, tout se résume à la voix et tous les instruments de musique, tous les compositeurs n'ont cherché qu'une seule chose, c'est avec leur instrument, quel qu'il ait été, ça peut être le violoncelle, ça peut être le piano, à imiter, à reproduire le son de la voix.
J'ai choisi pour vous accueillir Carmen de Bizet parce que je me disais que entre la langue et l'histoire, il y avait sans doute quelque chose qui vous interpellerait.
Oh bah si on devait faire un grand procès opératique, ce serait évidemment celui de Carmen, parce que bien sûr elle meurt, mais c'est quand même la grande coupable. Elle a fait tourner en bourrique ce pauvre Don José qui était tranquille avec sa petite Michaela, et puis elle lui a fait miroiter quelque chose, elle l'a envoûté, ensorcelé. Et donc finalement, qui est le vrai coupable dans Carmen? Ça pourrait faire une très belle cour d'assises.
On est avec vous aujourd'hui, Bertrand Perrier, dans Musique et moi sur France Musique, pour parler de vous à travers vos goûts musicaux, donc la musique tournée vers le piano. Et pourtant, la première œuvre liée à l'enfance n'en est pas. Vivaldi, pour commencer, avec vous dans Musique et moi, Bertrand Perrier.
Thank you.
le Stabat Mater de Vivaldi par l'Academy of Ancient Music, sous la direction de Christopher Hogwood avec James Bowman qui est l'interprété. C'est votre premier souvenir d'enfance, je crois, Bertrand Perrier.
En tout cas, c'est le premier CD de musique classique que nous avions à la maison.
CD, hein?
Ah oui. Alors, le premier disque noir, c'était le concerto pour deux violons de Bach par Leo Strack. Et à la création du CD, mes parents, qui n'étaient pas mélomanes de musique classique, ont acheté comme premier disque, pour vérifier probablement que l'appareil marchait, le Stabat Mater et le Nisi Dominus de Vivaldi par James Bowman et Christopher Hogwood.
Donc
j'ai écouté ça. C'est mon premier contact avec la musique classique, c'est mon premier contact avec la voix, avec une voix très particulière de contre-ténor, en plus dans une version un peu opératique de cette pièce célèbre, et je réécoute ça avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de plaisir.
Dans cette version-là, vous l'écoutez toujours ou vous avez trouvé des versions plus...
Non, il y en a d'autres qui sont un peu plus directes, on ferait probablement plus ça exactement comme ça aujourd'hui. Là, on est dans vraiment une amplitude... Ce n'est pas une boursouflure, enfin, on est vraiment dans quelque chose qui regarde vers l'avenir et vers l'opéra, plus que vers un chant plus neutre. Donc, j'écouterai pas forcément ça aujourd'hui dans cette version-là, mais enfin, elle est le signe de l'époque où je l'ai écoutée et où elle a été enregistrée.
Donc, vos parents l'auraient acheté par hasard?
Totalement.
C'est quel univers, dans quel univers avez-vous grandi, Bertrand Perrier?
À la maison, il n'y avait pas de disque classique, si ce n'est donc ce Stabat Mater. On écoutait de la chanson française, on écoutait Brassens, Brel, Léo Ferré, Barbara. Ça, c'était l'univers musical de mes parents. Et mes parents m'ont mis au piano, mais comme ils m'auraient mis au tennis ou au football, comme une activité extrascolaire, avec la consigne suivante. Tu en fais un an et tu ne râles pas. Et si ça ne te plaît pas, au bout d'un an, tu peux arrêter et on ne te demandera pas pourquoi. Donc, c'était la consigne pour toutes les activités extrascolaires, sauf le catéchisme. Donc, j'ai fait du piano pendant un an. Enfin, d'abord du solfège, et puis ensuite du piano. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai énormément aimé cet instrument, et le programme qui suit en est la preuve. Mais c'est vrai que à la maison, mes parents n'écoutaient guère de musique classique.
Le Nocturne en sol, opus 15, numéro 3 de Chopin, interprété par Daniel Barenboim. Un nocturne pour vous, Bertrand Perrier, par Barenboim. C'est le premier disque que vous êtes acheté, c'est ça?
Oui, absolument, parce que lorsqu'on a acheté donc un lecteur CD, mes parents m'ont dit, tiens, toi qui étudies le piano, tu vas acheter des disques. Et donc, j'ai acheté un disque de Vladimir Horowitz avec la sonate de Liszt et les Kreisleriana de Schumann. Et comme à l'époque, je travaillais à Nocturne de Chopin comme tant et tant d'apprentis pianistes, j'ai acheté les Nocturnes de Chopin, les 21, parce que c'était une intégrale, absolument intégrale, par Daniel Barenboim chez Deutsche Grammophon.
Par hasard?
Oui, totalement.
Totalement
je ne savais pas du tout qui était Daniel Barenboim, je ne m'étais pas du tout documenté sur les versions possibles de ces Nocturnes. Là encore, je me serais documenté, peut-être est-ce que j'aurais acheté autre chose, mais voilà, je suis tombé sur cette version des Nocturnes par Daniel Barenboim, mais c'était le deuxième et le troisième disque que nous avons acheté, puisque c'était un double CD.
Et vous vous souvenez du sentiment que vous avez eu, ce que vous avez éprouvé, est-ce que vous qui étiez pianiste... vous avez retrouvé quelque
piano,
chose.
Piano, c'est beaucoup dire.
En tout cas, vous l'avez appris, le piano.
Oui, oui.
Et est-ce que vous avez, ça vous a donné envie de travailler plus, le piano? Est-ce que ça a eu un effet sur vous?
Oui, évidemment, on n'écoute pas ça sans... Parce que à l'époque, pour moi, la musique, c'était quelque chose d'assez abstrait. On n'allait pas au concert. J'ai écouté mon premier concert à 18 ans. C'était Vlado Perlmutter au Festival de Sceaux. Il était déjà très âgé, mais il avait fait les 4 ballades de Chopin. Et donc, la musique, elle ne s'incarnait pas véritablement. Elle s'incarnait dans des auditions d'élèves, mais il n'y avait pas de disque, il n'y avait pas de concert. Et donc, c'était une première impression d'un professionnel qui jouait.
Ça vous a donné envie de progresser ou du moins d'atteindre...
Oui, évidemment, on ne peut pas écouter ça de façon indifférente.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Bertrand Perrier, vous êtes aujourd'hui l'invité de Musique et moi sur France Musique. Vous êtes avocat, professeur d'éloquence. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce nocturne, dans ces nocturnes, c'est que d'abord, Chopin s'abandonnait complètement dans ces nocturnes. Et aussi, il y a un caractère improvisatoire. Il laissait courir ses doigts.
Bien sûr, mais il laissait courir ses doigts de la même façon qu'une cantatrice laisserait roucouler un bel canto en faisant une petite improvisation. Et on sait d'ailleurs que les Nocturnes de Chopin, qui ont plusieurs éditions, ont des variantes, et notamment le célèbre opus 9 numéro 2, qui a de multiples variantes au gré de l'imagination de Chopin et de l'improvisateur génial qu'il était.
Et vous qui aimez improviser à l'oral, est-ce que ça vous parle? Est-ce que
ça... Ah, ça me parle totalement, parce qu'il y a à la fois une structure et l'exigence d'une structure, comme dans une improvisation qui ne s'improvise pas, paradoxalement. Une improvisation, c'est quelque chose qui est très cadré, et à l'intérieur de laquelle on se laisse une marge de liberté. Et c'est exactement ce que fait Chopin avec ses interprètes. C'est-à-dire qu'il est extrêmement précis sur la pédale, sur un certain nombre de structures, mais il laisse à certains endroits une marge d'improvisation.
la suite en la majeure, la mineure, gavotte et double de Jean-Philippe Rameau, interprété par Bertrand Cuillère. Alors, c'est une œuvre que vous avez interprétée, je crois.
Oui, interprétée est un très grand mot. Massacrer me paraît plus proche de la réalité.
C'est une œuvre néanmoins que vous avez essayé de jouer.
Oui, parce que quand j'ai passé péniblement mon diplôme de fin d'études, à l'époque on appelait ça comme ça, c'était le programme imposé,
donc.
Voilà, au conservatoire de Clamart où j'étais élève de Daniel Detchepard, qui était une ancienne élève de Marcel Ciampi et Denise Rivière. Donc vraiment l'école française de piano. J'ai fait mes petits exercices, mes petites fugues, mes petits préludes avec les doigts bien ronds et une égalité de son. En tout cas, je m'efforçais. Et donc on avait le bac, l'exercice et le morceau. C'est-à-dire que c'était totalement tripartite. Il y avait le bac qui était l'école de la rigueur, l'exercice qui était le mécanisme, et puis le morceau dans lequel on pouvait avoir un petit peu de liberté.
C'est amusant parce que lorsque j'ai un peu cherché au sujet de Rameau, j'ai vu qu'il y a eu un récital de clavecin de Rameau qui a été donné à l'Opéra Comique il y a 3 ans de cela, et dont le titre était « Éloquence et virtuosité ». On est encore dans l'éloquence, Bertrand Perrier. On dirait que vos choix musicaux correspondent beaucoup à votre esprit verbal.
Alors ça, je ne sais pas, je l'ai fait vraiment avec mon cœur en réalité, et ça correspond vraiment aux œuvres que j'aime, à mon journal intime ou à mon carnet de bord musical,
ouais.
Mais inévitablement, cette gavotte et ses doubles dans leur diversité, dans leur j'allais dire dans leur multilinguisme, puisqu'il y a quelque chose évidemment italianisant et quasiment proche de Scarlatti dans certains des doubles. Il y a aussi quelque chose d'éminemment français, mais on peut aussi retrouver des influences allemandes. Donc il y a dans cette œuvre, et plus généralement dans la musique de Rameau, l'idée d'un confluent entre plusieurs langages musicaux et une éloquence bien sûr, dans la conduite et la construction de cette œuvre.
David Bündler, Tänze de Schumann, interprété par Catherine Collard. Catherine Collard qui fait partie des artistes que vous avez vus en premier en concert, Bertrand Perrier. Si c'est pas elle la première, c'est pas loin.
Oui, juste après Vlado Perlmutter. En fait, c'était la programmation du festival de Sceaux. Et comme j'habitais à Clamart, eh bien, ce n'est pas très loin. Et donc, je surveillais chaque année la programmation de ce très beau festival qui existe encore, évidemment. Et j'y ai entendu Catherine Collard avec beaucoup de bonheur. Et puis après, elle nous a quittés. Mais c'était une immense artiste, puis j'ai connu un certain nombre de pianistes qui ont été ses élèves et qui en parlent avec beaucoup d'émotion. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai assisté à plusieurs de ses concerts à Sceaux, en effet.
Donc ce piano que vous avez appris jeune, avec lequel vos parents vous ont dit « bon, tu fais au moins un an et puis après, si tu arrêtes, tu arrêtes », il vous a accompagné beaucoup plus que simplement. C'est devenu un compagnon de route.
Ah, totalement. Il ne se passe pas une journée sans que je n'écoute du piano. C'est nécessaire à mon équilibre de vie. Voilà, dans les Davis Bündler, je trouve ça magnifique parce qu'on voit à quel point Schumann était le frère ennemi de Chopin. Enfin, là où là où l'un est le génie d'une harmonie irisée, variée, et l'autre est le génie des Foucades et de la double personnalité, hein, Eusebius et Florestan, bien sûr. Mais vraiment, on voit chez Chopin plus l'art de la modulation. Alors Schumann plus celui de la rupture et de la juxtaposition.
C'est vrai. Là, on passe d'une ambiance vive à intime, avec humour, impatiente. Hein, c'est comme ça que s'appellent ces danses. Et on sent bien qu'à chaque fois, on passe d'un état à l'autre, presque.
Oui, exactement. Il y a quelque chose de presque velléitaire chez Schumann. Et en même temps, il y a quelque chose de touchant dans cette admiration unilatérale que Schumann avait pour Chopin et que Chopin ne lui rendait pas, même s'il lui a dédié la deuxième ballade. On sait que Chopin l'a fait plus par courtoisie que par véritable sentiment d'admiration.
Donc vous avez développé cette passion pour la musique, en particulier pour Chopin, Bertrand Perrier. Mais néanmoins, vous n'avez pas choisi d'étudier la musique à aucun moment.
Ah mais parce que j'étais pas doué, tout simplement.
D'accord.
J'étais très mauvais. Donc au bout d'un moment, par égard pour le voisinage, j'ai arrêté. Parce que j'étais nul, j'adorais ça, mais je n'arrivais pas à le faire. Donc comme j'adore la musique, je déteste la massacrer. Et donc je laisse ceux qui savent la jouer, et je ne m'aventure pas sur ces plates-bandes.
Qu'est-ce que vous avez voulu faire alors à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, je savais pas du tout, j'ai fait des études très très banales, de droit notamment, et puis après j'ai été avocat, mais à aucun moment la question d'une carrière de musicien ne s'est posée, simplement parce que j'avais pas les moyens de mes ambitions.
Thank you.
Aldo Ciccolini qui interprète cette toccata de Debussy et qui vous renvoie à vos années universitaires, Bertrand Perrier, puisque vous écoutiez une émission sur cette chaîne qu'est France Musique, dont le générique était celui-ci.
Exactement, c'était une émission qui s'appelait « En blanc et noir ». Autre œuvre de Claude Debussy et qui était présentée par Anne-Marie Réby en direct et en public du studio 106, je crois, de la Maison de la Radio. Et le concept était extrêmement simple. Tous les midis, de 12h30 à 13h30, il y avait un récital de piano gratuit et qui était diffusé en direct. Et donc, pendant 2 ans, ça a duré, je crois, de 94 à 96, et j'ai passé tous mes midis dans ce studio à écouter des pianistes. Je me souviens de Nelson Gerner, par exemple. Et j'ai eu l'occasion par la suite de faire la connaissance d'Anne-Marie Réby qui m'avait expliqué qu'ils étaient tous payés 800 francs et que tout le monde avait accepté sa proposition de venir jouer, sauf un dont elle m'a pas donné le nom, pour 800 francs.
Donc, des grands interprètes qui
venaient
jouer en direct dans un studio de la Maison de la Radio, le studio 106. Donc, vous alliez...
Et comme c'était gratuit et que je n'avais pas beaucoup de sous, j'y allais tous les jours, ou quasiment tous les jours, et c'est ainsi que j'ai fait beaucoup de mon éducation musicale.
En allant simplement aux
émissions
radio.
En allant écouter les pianistes au gré des programmes qu'ils proposaient à France Musique.
Au lieu d'aller en cours aussi.
Oui, mais c'est prescrit.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Bertrand Perrier, vous êtes avocat, professeur d'éloquence, et vous êtes avec nous aujourd'hui sur France Musique dans Musique et moi. Donc, vous avez étudié le droit, mais avant le droit, je crois que vous êtes passé par Sciences Po, c'est
oui.
ça? C'est là que vous avez commencé à prendre du plaisir à parler?
Pas véritablement, parce que même s'il y avait l'art de l'exposé oral, hein, qui est un peu le cœur de la pédagogie de Sciences Po, ça reste quand même quelque chose de très technique, et à l'époque, la parole n'est pas du tout un plaisir. C'est une méthode pédagogique, mais je n'y vois que quelque chose d'assez contraint, qui est noté, évalué, qui est utilisé pour des concours, mais pas du tout comme quelque chose de libre ou de plaisant.
À quel moment ça s'est...
Beaucoup plus tard, lorsque je deviens avocat et que je passe des concours d'éloquence, puisqu'il y a dans la tradition oratoire du barreau de Paris des concours d'éloquence qui permettent à des jeunes avocats, c'est très rassurant, au barreau on est jeune jusqu'à 35 ans, donc à des jeunes avocats de s'exercer à l'art oratoire. Et donc j'ai passé ces concours un peu comme une thérapie ou pour me familiariser avec la prise de parole en public, et c'est à cette occasion qu'elle est devenue un plaisir.
Et comment s'est passé de presque un complexe à un plaisir, ça paraît
simplement
extraordinaire.
Par une volonté de ma part aussi de briser le cercle vicieux de la timidité, parce que la timidité c'est bien surtout si on arrive à s'en sortir, ce qui suppose un effort et une discipline sur soi-même, et donc j'ai fait cet effort de me présenter dans les concours d'éloquence que je pouvais passer.
Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais: écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité. Puis psalmodié dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.
Oh,
le discours d'André Malraux pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Un discours qui nous a mis la chair de poule, et je pense aux auditeurs également, Bertrand Perrier, où là, on est dans un art oratoire qui est proche de la perfection. On écoute tout, le rythme, la musicalité, la tonalité de la voix.
Oui, en réalité, vous m'avez demandé un programme musical et je n'ai pas pu résister à l'envie d'inclure ce qui, pour moi, est vraiment de la musique dans la parole. Là, il y a une prosodie reconnaissable entre toutes, aussi un peu datée, et plus personne ne ferait ça aujourd'hui, mais fantastique. Enfin, on peut pas écouter ça sans être totalement bouleversé.
Mais il y a de la mise en scène, là.
Totalement. C'est une parole mise en scène. Pour moi, je vois le texte d'André Malraux comme une partition. Il y a des accélérando, il y a des diminuendo, il y a des accents, il y a des soupirs et des demi-soupirs, il y a des points d'orgue. Pour moi, c'est vraiment une partition.
Alors, pour en revenir à votre propre expérience de passer ce cap de la timidité, est-ce que, précisément, s'inscrire dans une partition pourrait aider à dépasser...
Totalement. Lorsque j'ai passé mes concours d'éloquence, j'avais mon papier sous les yeux, puisque c'était plus un concours en réalité de déclamation ou de récitation d'un texte qu'on avait. Il n'y avait pas d'improvisation. Et donc, j'annotais mon papier comme je l'aurais fait d'une partition, avec des liaisons, avec des accents, je peux le dire aujourd'hui, mais avec des smileys, et avec des stops, avec des slash. Enfin, j'avais annoté ça comme une partition.
Et c'est ainsi que vous avez réussi à vous libérer.
Ça m'a beaucoup aidé de reproduire finalement sur un discours ce que j'avais fait petit sur un piano.
Aujourd'hui, vous parlez à ce micro, bien sûr, en improvisant. Est-ce que vous avez trouvé un ton ou une tonalité qui vous permette de trouver cette assurance que l'on entend là en vous écoutant ?
Non, je crois pas que j'ai une assurance à toute épreuve. Chaque prise de parole est pour moi une épreuve. Je la redoute, je la prépare, même si elle ne peut être à mon sens qu'improvisée, parce que je ne saurais plus véritablement écrire des discours comme on le faisait dans les concours d'éloquence. D'ailleurs, les plaidoiries d'avocat ne sont jamais intégralement écrites, puisqu'il faut se laisser la part de liberté qui naît aussi du moment et de l'instant de l'audience pour s'adapter à son public. Mais c'est aussi l'art du musicien que de savoir s'adapter à une salle, à une acoustique, à un instrument.
Et à une rythmique.
Night descends as the sun's light ends, and black comes back to blend again. And with the death of the sun, night and blackness become one. Blackness being you, peeping through the red, the white and the blue. Of boss black civilizations that once flourished and grew. Hey, wake up, niggas, are y'all through? Drowning in a puddle of the white man's spit as you pause for some draws in the midst of shit and ain't got nothing to save your funky ass with. You cool fool, sipping on a menthol cigarette round midnight, rapping about how the Big Apple is out of sight. You ain't never had a bite. Who are you fooling? Me? You? Wake up, niggas, are you all? Junkies are dreaming of total bliss somewhere in the atmosphere, far away from here, beyond realms of white dimensions, guided by suppressed intentions, as their cries, cries, cries go unrecognized, except by their keeper, the Grim Reaper. Save me a corner, you shout, as the lights go out, cause you ain't paid the electric bill, and the rats and roaches move on into the kill, as your lips struggle to drain that last drop from the wine bottle, and you roll snake eyes, never realizing that you blew. Wake up, niggas, or you're all through. Sitting in the corner with your mind tied to your behind. Bonafide members of Niggas Anonymous, never knowing which way you're going. Pimping off life, turning tricks to slick dicks with candy asses. All masters will be hell tomorrow morning for the late great black man.
Right, brothers and sisters, you living dead. With the cock crow. Wake Up Niggers, The Last Poets, pour illustrer ce que l'on disait à l'instant. Bertrand Perrier, c'est un choix musical pour vous que j'ai sélectionné, puisque j'avais envie de parler de ce procédé de la parole finalement, et de la rythmique, de la nécessité de trouver le rythme qui permette de dire ce qu'on a à dire.
Oui, bien sûr, et notamment la question du débit qui est une grande question dans la parole aujourd'hui. Beaucoup de personnes et d'orateurs ont l'impression de se débarrasser des mots, de les jeter un peu comme les poulpes jettent de l'encre, vous savez, un peu comme une protection. Et on jette ça très vite en une fois. Et je crois au contraire à la nécessité de d'adapter la rythmique et le débit et de le varier. Comme dans une musique, on n'écouterait pas une symphonie sur une seule note répétée à intervalles réguliers.
Ici, dans cet exemple-là, Wake Up Niggers, vous avez très justement remarqué cette basse continue. Hein,
Oui, il y a une basse continue totalement hypnotique, Wake Up Niggers, sur laquelle viennent s'incrémenter les paroles véritables de ce texte. Mais il y a en sous-texte et en sous-couche, en quelque sorte, de cette musique, une forme de basse continue, Wake Up Niggers, qui est une sorte de musique hypnotique.
Vous enseignez l'art oratoire depuis quelques années, gratuitement, en tout cas de manière bénévole, en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte, Bertrand Perrier? Pourquoi le faites-vous?
Eh bien, je le fais précisément pour ce genre de musique. Je le fais parce que, d'abord, on ne m'a jamais appris l'art oratoire. Ce que j'en sais, je l'ai appris sur le tas, de façon très empirique et donc très imparfaite et très lente. Au gré des expériences bonnes ou mauvaises que j'avais eues avec la parole. Et donc, je me suis dit qu'il était peut-être bien que cet enseignement que j'avais construit d'abord pour moi-même, je le transmette aux autres pour qu'ils perdent pas le temps que moi j'ai perdu avec la parole. Et puis, la deuxième chose en Seine-Saint-Denis, c'est que il y avait une parole très diverse. Et c'était l'idée d'Eloquentia, et dans l'idée de son créateur Stéphane de Freitas, qui est aussi le réalisateur d'A Voix Haute, c'était d'enseigner l'art oratoire, mais sous toutes ses formes. Et avec des intervenants d'horizons divers. Donc il y a des slameurs, des recruteurs, des coachs vocaux, metteurs en scène, enfin tous les métiers qui ont un rapport avec la voix sont représentés dans l'enseignement d'Eloquentia, de la même façon que dans le concours qui clôture la formation, nous invitons également des humoristes, des chanteurs, des journalistes, toutes les professions qui ont un rapport privilégié avec la voix. Et donc, mon idée en allant en Seine-Saint-Denis était précisément de sortir d'une parole très formatée qui était celle des concours d'éloquence d'avocat, où il y a véritablement des exigences formelles importantes et un carcan qui peut être un peu étouffant, de sortir de cela pour aller vers une parole plus diverse, plus libre et, je crois, plus authentique.
Thank you.
suite pour piano numéro 1 en si bémol majeur de Georges Friedrich Händel, interprété par David Bismuth, dont vous avez écrit le livret, Bertrand
oui,
Perrier.
Parce que vous m'avez demandé des extraits musicaux qui seraient en lien avec ma vie professionnelle. Il n'y en a aucun, puisque je sépare totalement la musique et le travail. Je suis incapable de travailler en musique. Je trouve que ça dégrade à la fois l'un et l'autre. Donc, le seul rapport éventuellement un peu professionnel que je peux avoir avec la musique, c'est que de temps en temps, j'écris des livrets de CD. Et notamment pour le label Hamson et David Bismuth, qui est un ami par ailleurs. Et donc, j'ai écrit en effet le livret, entre guillemets, musicologique, bon, c'est un bien grand mot, de ce disque qui retrace Beethoven et ses maîtres, donc les influences en amont de Beethoven autour de Haydn et Händel.
Donc vous n'êtes pas devenu pianiste, mais vous avez poursuivi cette passion pour le piano de manière assez approfondie quand même, Bertrand Perrier.
Oui, oui, c'est aussi l'occasion, en écrivant des livrets de CD, de découvrir parfois des œuvres et des répertoires. Et je le fais aussi par amitié pour les pianistes et les producteurs qui me le demandent. Et voilà, j'ai beaucoup, quand j'étais jeune, cherché la compagnie des pianistes parce que j'étais un peu fasciné par ce métier que j'avais pas pu embrasser parce que j'avais pas de talent. Et donc, ce métier je divinisais beaucoup les pianistes, je les divinise toujours, hein, parce qu'ils ont ce supplément d'âme, cette petite part de cristal au-dessus de leur tête que je n'ai pas. Et donc, je les aime beaucoup et c'est vrai que je recherchais beaucoup cette compagnie. Et c'est ainsi que voilà, je suis devenu ami avec beaucoup de pianistes au gré des concerts auxquels j'assistais et des admirations que je vouais à nombre d'entre eux, dont David.
Et vous êtes devenu aussi administrateur du festival.
Oui, alors le fait d'être administrateur du festival qui s'appelle maintenant Festival Chopin, qui est donc le festival qui a lieu chaque été dans le Berry, là où Chopin et George Sand vivaient pendant les 7 étés de leur relation, m'a permis aussi, en tant qu'organisateur de ce festival, dans l'équipe bien sûr d'organisation, je suis un parmi tant, mais de côtoyer au plus près les artistes et parfois de nouer de très belles amitiés.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Vous êtes professeur d'éloquence et avocat, Bertrand Perrier. Vous êtes avec nous aujourd'hui sur France Musique dans Musique et moi. La différence, justement, quand on écrit un livret entre l'oral et l'écrit, est-ce que vous la ressentez ou est-ce que vous écrivez comme vous parlez?
Ah non, ça, ce serait pas du tout possible. Ouais. La grande différence entre l'écrit et l'oral, c'est que l'oral, c'est l'affaire de l'instant. La parole naît et meurt en même temps. Donc, il n'y a pas d'instance d'appel. Il n'y a pas de fonction rewind. On peut pas rembobiner une parole. Elle est partie. Alors que le texte, au contraire, peut être retravaillé. On peut avoir une gomme. On peut avoir une seconde chance en effaçant et en réécrivant. Donc, c'est en cela que l'écrit est beaucoup plus confortable.
Thank you.
Le scherzo allegro con brio de la sonate en sol mineur opus 65 de Frédéric Chopin pour violoncelle et piano interprété par Alexander Kniazev et Nikolaï Louganski. Chopin, Bertrand Perrier, on parlait de
lui
tout à
l'heure. Oui, c'est la porte d'entrée vers le monde musical pour moi. Et on en a parlé tout à l'heure avec Barenboim. Et puis après, aimant ce répertoire, j'ai assisté comme spectateur au Festival de Nohant. Et petit à petit, assistant été après été à ce magnifique festival, je me suis impliqué un peu comme bénévole, j'ai tout fait, j'ai tartiné au cocktail, j'ai servi des coca j'ai fait chauffeur d'artiste. Et lorsque Yves Henry a repris le festival en 2011, il m'a proposé de venir dans son équipe pour développer un programme autour du jeune public. Mmh. Et donc le Festival de Nohant maintenant propose des masterclass avec les élèves des conservatoires de la région. Nous faisons des concerts pour les scolaires. Nous faisons des concerts que nous appelons hors les murs, où nous allons dans des petits villages autour de Nohant, parce que la plupart des gens ont encore une sorte d'inhibition à aller vers ce lieu, qui est pourtant un lieu magnifique, qui a évidemment accueilli les plus grands musiciens du XXe siècle et du XXIe siècle, été après été, et qui perpétue cet esprit romantique de dialogue entre les arts, la littérature, le théâtre, la musique bien sûr, les marionnettes, la peinture, et qui essaye de faire souffler cet esprit de Georges Sand et de Chopin au-dessus de la bergerie de la maison de Georges Sand.
Alors pourquoi cette sonate en sol mineur ? C'est pour
d'abord parce qu'elle a été composée à Nohant, que c'est une œuvre absolument majeure dans le dernier Chopin, que s'y déploie l'invention harmonique de Chopin, qu'il y a aussi ce violoncelle qui était si cher à son cœur et qui était l'instrument de son ami Franck Homme, qui a beaucoup contribué à qui a beaucoup contribué à l'écriture aussi de cette sonate et de cette volonté de Chopin de toujours avoir quelque chose autour du chant, de la voix. Et on sait que le violoncelle est peut-être l'instrument qui est le plus près de la voix humaine.
On dirait, à vous écouter Bertrand Perrier, que finalement cette musique dont nous parlons depuis le début de l'émission, ça a été longtemps votre raison de vivre.
Mais ça l'est encore.
Ça l'est encore.
Ça l'est encore. J'aime beaucoup le droit, j'aime beaucoup la parole, mais la musique est quelque chose dont je ne parle jamais d'ailleurs, heureusement que vous êtes là pour qu'on en parle, mais c'est quelque chose qui est vraiment très 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 important pour moi. Thank you.
Le concerto pour piano numéro 5 en fa majeur opus 103 de Camille Saint-Saëns, interprété par l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, sous la direction de Christoph Eschenbach, avec Svetoslav Richter au piano. Vous êtes un richterophile, Bertrand Perrier.
Ah non, je suis un richteromane. J'adore Svetoslav Richter. Et c'est un pianiste pour lequel j'ai voué une sorte même de culte de la personnalité. Et j'aimais pas seulement le pianiste, j'aimais la personne et j'aimais son rapport avec la partition qu'il avait toujours sous les yeux. Et il disait lui-même, oui, évidemment, je peux jouer le clavier bien tempéré avec la partition, mais n'est-ce pas immodeste vis-à-vis de Bach? Et il y a cet effacement de Richter vis-à-vis de la musique qui me touche énormément, ce respect de la musique écrite. Alors là, évidemment, dans Saint-Saëns, c'est un souvenir personnel un peu plus joyeux, puisque c'est un concert... j'ai entendu ce cinquième morceau de Saint-Saëns par Richter à Tours, et j'avais fait Paris-Tours, Tours-Paris dans la soirée pour l'entendre. Il avait joué également le deuxième de Saint-Saëns ce soir-là, puisqu'il avait programmé les fêtes musicales en Touraine autour du thème musique joyeuse, ce qui n'est pas forcément le répertoire au des tours duquel on attendrait Svetoslav Richter, mais il avait, je crois en 95, choisi ce thème, et donc j'étais allé à Tours pour l'écouter. J'en garde un souvenir absolument vibrant. Je l'avais entendu quelques semaines plus tard au Théâtre de la Ville, dans un récital qu'il avait donné un mercredi à 17h, et qu'il avait annoncé deux jours avant, et qui était archi plein. Et voilà, c'est pour moi quelque chose d'unique, Svetoslav Richter. J'ai eu la chance de visiter à Moscou son appartement, qui est un assez petit appartement qu'il partageait avec Nina, chacun une aile, dans un appartement qui devait être quelque chose de très luxueux pour l'époque, qui aujourd'hui est un appartement au dernier étage d'un immeuble finalement assez modeste. Et on a l'impression qu'il va surgir de derrière une porte. Il y a tous ses souvenirs, toutes ses revues, toutes ses partitions, ses deux pianos dans le grand salon. Et voilà, ça me touche beaucoup, Svetoslav Richter, parce que c'est vraiment un rapport à la musique d'exigence, d'abnégation, de renoncement à soi-même, qui, je trouve, est extrêmement beau.
Pour en revenir à ce que vous disiez sur la partition, Bertrand Perrier, qui me paraît intéressant, c'est le rapport entre le texte et la partition. La partition fait c'est le même support finalement que le texte quand on...
Et non, c'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, la partition, c'est un peu la même chose que le texte pour un comédien. C'est-à-dire dire le texte d'un autre, musical ou littéraire. C'est-à-dire avoir l'exigence de base de ce texte qui nous a été légué, dont nous ne sommes rien d'autre que les passeurs, avec la marge de liberté que cela impose aussi et que cela laisse. Il ne s'agit pas d'être servile vis-à-vis du texte, que ce soit une partition ou un texte que l'on interpréterait. C'est tout à fait différent pour l'orateur improvisateur, qui lui est plus proche d'une sorte de jazzman, qui aurait un certain nombre de tablatures, un certain nombre de standards, mais dont il pourrait s'échapper à tout moment.
Et donc, il y a...
La fameuse grille. Donc, il y a une marge bien plus grande pour l'orateur qui dit son propre texte par rapport à l'interprète, qu'il s'agisse d'un comédien ou d'un musicien, qui est d'abord au service du texte d'un autre.
On va se quitter, déjà Bertrand Perrier.
C'est triste.
Oui, c'est triste, mais on va se quitter sur un air que vous sifflez régulièrement.
Oui, alors là encore, je vais dévoiler les secrets de l'émission. On m'a demandé un air que vous sifflez sous la douche. Et j'ai pensé au Chemin de l'amour de Francis Poulenc, parce que c'est quand même magnifique d'air, de texte aussi. Le texte est très beau. Et puis ça a un petit côté français, sucré, suranné. On pense à Yvonne Printemps pour qui ça a été écrit et... Voilà, c'est pas forcément la musique la plus éthérée, c'est pas une passion de Bach, mais sous la douche, qui siffle une passion de Bach?
Merci Bertrand Perrier.
Merci à vous.
Je rappelle que votre livre, La parole est un sport de combat, est publié et republié chez Jean-Claude Lattès. Les fleurs effeuillées, les pousses sous leurs arbres de nos deux. Felicity Lott et Malcolm Martineau interprétant Les chemins de l'amour de Francis Poulenc pour terminer cette émission en compagnie de Bertrand Perrier, avocat et professeur d'éloquence dont le livre La parole est un sport de combat vient de reparaître chez Jean-Claude Lattès. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. Un grand merci à Alain Joubert qui était à la prise de son ce matin, Sophie Pichon à la réalisation et Marie Ferdinand attachée de production. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi ou bien sûr la podcaster. À dimanche prochain.
France Musique.